Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels.
Avec Yves Calvi et Benoît Hamon.
Et à 7h46 sur RTL, Elisabeth Martichoux, vous interrogez Benoît Hamon.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour,
on va poursuivre dans la lecture de votre programme. On va revenir à l'école, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Page 17, vous dites, vous, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, je recruterai 40 000 enseignants supplémentaires qui s'ajouteront donc aux 60 000 créés sous François Hollande. Il y a le principe, on y reviendra. Il y a le comment, il est essentiel à vous qui prétendez vous adresser à la génération du futur, parce que vous le savez, il y a un vrai problème de recrutement. Il y a une pénurie en 2015. Le nombre de candidats à l'enseignement a chuté d'un tiers par rapport à 2007. Est-ce que, avec plus de quantitatifs, vous n'allez pas faire moins de qualitatifs? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisse de niveau des enseignants en France avec votre projet?
Bon, je ne le crois pas. D'abord parce qu'on a rétabli la formation initiale des enseignants, je le rappelle. Nicolas Sarkozy l'avait supprimé. Apprendre était le métier qu'on n'apprenait plus. Dans ce pays, eh ben nous l'avons rétabli, ce sont les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, parce qu'on peut être un excellent géographe, c'est un autre métier que d'être professeur de géographie. Donc première chose, ça rend beaucoup plus attractif le métier. Évidemment, le déroulement de la carrière est un élément clé pour attirer par exemple des professeurs de mathématiques, plus attirés aujourd'hui par les métiers de l'informatique.
C'est la matière où il y a plus de pénurie.
Voilà, c'est une des disciplines dans lesquelles il y a effectivement des difficultés de recrutement. Mais sur les dernières années, au contraire, nous avons une amélioration du nombre de candidats présentés au concours. Pourquoi est-ce que je veux continuer à augmenter le nombre d'enseignants? D'abord parce que ma priorité, c'est d'en finir avec les classes surchargées aux primaires. Les écoles primaires, en moyenne, aujourd'hui, mais les moyennes arrangent tout le monde, il y a 23 élèves en moyenne
6,
par classe.
23,
mais la réalité, c'est qu'on peut être à 30 ou on peut être à 15. Et moi, je souhaite qu'il ne puisse plus y avoir plus de 25 élèves par classe en France et 20 dans les zones d'éducation prioritaire, dans les Outre-mer et dans les zones rurales défavorisées.
En CP,
CE1, CE2, CE2. C'est-à-dire le cycle 2.
Alors, Emmanuel Macron divise par 2, lui, il est beaucoup plus ambitieux.
Dans les zones d'éducation prioritaire, voilà. C'est ce qui concerne que
oui,
des
mais
écoles.
Vous, mais... c'est 20 dans les zones d'éducation prioritaire, pour être précis,
mais
votre maximum.
Que moi, je connais ces questions-là.
Et pas lui?
Oui, je pense que renvoyer la liberté de recruter aux écoles les professeurs est dangereux.
Il ne dit pas tout à fait ça dans son programme.
C'est exactement ce qui est inscrit dans son programme, c'est-à-dire la liberté, l'autonomie pour le recrutement, pour les chefs d'établissement. Ce qui veut dire que les meilleurs professeurs iront là où les écoles sont les plus attractives. Je ne pense pas qu'il faille faire cela. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite m'attaquer à la question des classes surchargées partout. Nous savons qu'il y a un lien direct entre les difficultés d'un élève qui est issu, qui a une origine modeste, qui a plus de difficultés qu'un autre, et le nombre d'élèves par classe. Il y a une corrélation qui est une corrélation démontrée par les services de l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle ce sera en valeur absolue 25 élèves par classe maximum dans ces trois classes, CP, CE1, CE2, où se joue les apprentissages fondamentaux. Ce sont les trois classes où c'est pas que l'essentiel s'y joue, mais en primaire, pour parler français, écrire français, lire le français, compter, se jouent là les clés qui vous permettront ensuite d'avoir une trajectoire qui est une trajectoire au collège et au lycée.
Alors on avance. Vous allez revaloriser les enseignants, c'est une priorité, vous l'avez dit aussi. Vous voulez créer un service public de soutien scolaire.
Payé sur les heures supplémentaires des professeurs, oui.
Donc avec des profs rémunérés en heures supplémentaires.
En heures supplémentaires.
Vous n'avez
ça
pas...
aussi, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas de devoir aujourd'hui aux primaires? Il y a des leçons. C'est une subtilité, mais on a quand même un certain nombre d'exercices à faire à la maison. Eh bien aujourd'hui, en tout cas de dicter, on apprend tel ou tel texte. Eh bien aujourd'hui, là encore, c'est dans le temps qu'on passe hors de la classe que les inégalités frappent. Et moi, je veux que ce service public de soutien scolaire permette justement, en plus de ce qui existe au niveau associatif, d'accompagner les élèves les plus en difficulté. Une classe plus homogène aussi en termes sur ce plan-là, c'est mieux pour la réussite de chaque élève.
Une petite question par parenthèse. Tout cela est extrêmement coûteux, pas évidemment, pour le budget. Mais en tout cas, hier, vous n'avez pas...
Coûteux, dites-moi combien.
Eh ben non, c'est à vous de nous le dire, justement.
Ah d'accord, mais vous dites que c'est coûteux, moi je peux vous donner
hier, vous n'avez pas donné un chiffre, vous n'avez pas donné un chiffre hier, dans votre programme.
Madame Martichoux, tentez si bien qu'aujourd'hui, je consacrerai ma journée avec mes équipes à donner le cadrage budgétaire et macroéconomique de l'ensemble de mon projet. Si j'avais consacré ce temps-là hier à mon programme, on n'aurait parlé que de cela, donc je fais en deux temps, d'abord les propositions et aujourd'hui le financement. Et ce que je veux dire, c'est que cette mesure sur l'éducation nationale, elle coûte moins de 4 milliards d'euros.
Là, vous parlez du service public de soutien scolaire.
Je je parle des mesures sur l'éducation nationale.
Toutes celles dont on a parlé, vous dites moins de 4 000.
40 000 profs, ça se disperse comment ou ça se ventile comment? D'abord, mais dans l'amélioration. Pas. Non, mais c'est pas rien de baisser les. Faut quand même. C'est pas qu'un coup. Il y a une très belle phrase d'Abraham Lincoln.
Vous avez d'ailleurs expliqué pourquoi.
Oui, mais
pourquoi,
que je renvoie à votre sagacité, qui dit vous trouvez que l'école coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Eh bien, moi, je préfère investir justement dans l'école, même si ça coûte 4 milliards, dans le fait que nos enfants puissent apprendre correctement dès le primaire, plutôt que devoir payer demain le coût social de l'ignorance.
Parce
que
ça coûte cher. 4 milliards par an ?
4 milliards au terme de du recrutement des enseignants.
4 milliards
par an. Oui, parce que ça ne se recrute pas. 40 000 enseignants, je veux dire, ça ne se recrute pas en un an. Ça se recrute au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on en a fait 60 000, en réalité 54 000 en 5 ans.
À propos de laïcité, maintenant, page 29 de votre programme, vous rappelez que vous ferez strictement respecter la loi de 1905. Vous l'avez dit et redit, pas plus, pas moins. Loi 1905 dont vous avez dit, et ça m'avait frappé à l'époque, qu'elle protège aussi bien la fille habillée en short que celle qui veut librement porter le foulard, vous l'aviez dit, je crois, au journal du dimanche en février. Le short et le voile, vous les mettez sur le même plan.
Non,
c'est votre phrase textuelle.
Oui, évidemment. Celle qui veut, aujourd'hui, se promener en short ou en mini-jupe, dans un quartier où un religieux lui dit « c'est indécent, habille-toi ». Oui, la loi de 1905 la protège, elle n'a pas à se voir imposer une tenue au nom d'un dogme religieux. Et en l'occurrence, un foulard.
Et vous la protégez comment, celle-là, concrètement?
Concrètement, alors, d'abord, je pose les principes. Celle qui porte un foulard librement, je n'ai pas à lui demander de l'enlever.
Comment vous faites la différence entre celles qui le portent librement et celles qui ne le portent pas librement, qui subissent un certain asservissement ou un dogme religieux?
Mais je l'entends bien, cela. Ouais. Et c'est là qu'il faut lutter contre toute forme, aujourd'hui, d'asservissement de la femme, par le foulard ou par toute autre chose, qui conduise aujourd'hui à ce que notre pays soit quand même, en termes de violence faite aux femmes, un des pays où on se singularise justement. Mais je considère que la loi de 1905, elle protège la liberté de conscience et la liberté d'opinion religieuse.
Comment vous faites la différence? Par la prévention? Par quoi?
Par définition, je ne peux pas faire la différence parce que je ne le sais pas, mais le foulard, il est porté librement par des femmes, oui ou non?
Pas forcément.
Mais est-ce que vous consentez, Madame Martichoux, est-ce que vous consentez que des femmes le portent librement? Répondez.
Ça peut arriver, mais voilà. on peut s'inquiétter aussi de toutes ces femmes qui subissent effectivement une loi religieuse, c'est la raison pour laquelle je dis qu'elle
protège la loi 1905, la liberté de conscience, la liberté d'opinion religieuse, et qu'elle est un écrin auquel on a besoin d'ajouter aucun épithète. Comment? Et moi, je propose de créer. C'est un numéro vert, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour toute forme d'atteinte à la laïcité. Là où on juge que notre vie est perturbée, percutée par des comportements d'un certain nombre de personnes qui veulent nous imposer un dogme. Le dogme qui est celui de leur conscience, de leur foi, et qui voudrait remettre en cause notre liberté. Et plus généralement, je considère aujourd'hui que c'est dans l'éducation nationale que ces préjugés, ces stéréotypes doivent sauter. Et c'est ce travail-là que nous faisons aujourd'hui dans l'éducation nationale qui doit être poursuivi, mais moi je ne serai pas de ceux qui, derrière le discours que l'on tient sur le foulard, finalement, ont comme objectif, ou ils doivent l'assumer, d'interdire le foulard dans l'espace public. Mais alors qu'ils aillent au bout, qu'ils disent... Nous interdirons tout port de signes religieux, dont le foulard, dans la rue.
Moi, je ne le souhaite pas. C'est le Front National qui préconise effectivement l'interdiction.
Et quelques autres qui
ne
vont peut-être pas
public.
Jusqu'au bout, qui tiennent le discours du Front National, mais ne vont pas jusqu'au bout.
Mais qui?
La droite.
François Fillon.
Laurent Wauquiez, par exemple, ou François Fillon, qu'ils aillent au bout. Qu'ils aillent au bout, à ce moment-là, on interdit tout signe religieux dans l'espace public et on remet en cause, de facto, la loi de 1905 qui le permet. Rappelons-le, hein.
Alors, je voudrais qu'on reparle justement de votre famille à vous, votre famille de gauche. Vous incarnez une gauche radicale, c'est ce qu'était venu dire ici d'ailleurs Jean-Marie Le Guen au micro de RTL. Vous assumez? Vous êtes face à la gauche progressiste, c'est ça le match entre Macron et Hamon?
D'abord, je rappelle qu'Emmanuel Macron ne se dit ni de gauche ni de droite aujourd'hui. Hein. Donc,
il se revendique d'une gauche progressiste.
Il a failli
du
dire
progressisme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Maintenant, il dit en fait qu'il est et de droite et de gauche. Il ne soustrait pas, il ajoute.
Voilà, c'est-à-dire qu'il écrit dans un livre à Paris que la colonisation a eu des effets bénéfiques et il la traite de crime contre l'humanité quand il est en Algérie. Et puis après, il fait la synthèse. Bref, je considère aujourd'hui que... moi, j'incarne, et ma responsabilité, elle est d'incarner toute la gauche. Et je parle aux électeurs tentés par Emmanuel Macron, comme ceux qui ont envie de voter Jean-Luc Mélenchon.
Qu'est-ce que vous dites aux socialistes qui sont tentés justement aujourd'hui par Emmanuel Macron? Vous leur dites quoi? Ne cédez pas aux sirènes?
Je ne fais pas ainsi. Mes devoirs, elles sont vis-à-vis des électeurs qui m'ont choisi. J'ai la responsabilité, après François Mitterrand, après Lionel Jospin, après Ségolène Royal et François Hollande, d'être le candidat socialiste. C'est ma responsabilité. Mmh. Et elle suppose que je m'intéresse moins aux sanglots de quelques-uns.
Les sanglots de Manuel Valls?
Les sanglots,
c'est quoi les sanglots?
Mais Madame Martichoux, préoccupation des Français. Ce que j'y dis simplement, c'est que dans une période de crise morale et politique, le respect de la parole donnée, ça compte. Le respect du verdict de la démocratie, ça compte. Nous avons en face de nous un parti antidémocratique qui est le Front National. Eh bien, lutter contre le Front National suppose de respecter profondément le verdict de la démocratie.
Il y a du dépit dans le fait de ne pas tenir sa parole? Il y a un calcul politique, il y a quoi?
Ce n'est pas à moi de juger cela. C'est à vous de le commenter, mais moi je n'ai pas d'avis là-dessus.
Bon, on parlait de Manuel Valls. Votre projet est dangereux, a dit de vous, de votre projet, Bertrand Delanoë. Est-ce que ce mot dangereux vous a touché venant de lui?
Écoutez, moi j'ai le soutien d'Anne Hidalgo.
Oui, qui a succédé à Bertrand Delanoë. C'est,
oui,
c'est la réponse incarnée à cette... dangereux, c'est violent quand même comme terme.
Oui, je pense que c'est excessif et que ces mots-là, à mon avis, ne les assumeraient plus tout à fait comme cela maintenant.
Pourquoi voter plus Benoît Hamon que Jean-Luc Mélenchon?
Parce que Benoît Hamon peut gagner l'élection présidentielle.
Et Jean-Luc Mélenchon s'est perdu, il ne remontera pas.
Sinon, vous ne serai pas candidat à l'élection.
Vous pouvez gagner sans que Jean-Luc Mélenchon ne se démette d'ici au premier temps. Hier, oui. Arnaud Montebourg, qui vous soutient, a lancé un appel à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il se démette. Vous disiez tout à l'heure en début d'émission, mais ce n'est plus le sujet, c'est fini, il ne le fera pas.
Oui. Écoutez, soit je me préoccupe de ce que font les autres candidats, soit je défends un projet politique. J'essaye d'appeler à voter pour et pas contre. J'essaye de me tourner vers l'avenir. Vous me posez des questions sur les autres candidats. Tout ça est respectable. Mais voilà, laissez-moi cette campagne pour parler aux Français. C'est ce que j'essaye de faire. Et surtout, c'est pas seulement leur parler. C'est faire monter les sujets qui étaient sous la toise. Et ce qui était sous la toise, c'est quoi? Le fait que quand vous êtes travaillé à mi-temps, aujourd'hui dans une maison de retraite, vous n'avez pas de quoi vivre. Alors, et que dans les maisons de retraite, on se plaint du fait que les personnels ne sont pas là assez.
Question d'actualité. Que pensez-vous de la clause Molière qui oblige les ouvriers à parler français sur les chantiers? Ça a été mis en place par...
Heureusement qu'elle n'existait pas il y a 30 ans, au moment où sur les chantiers, des Portugais, des Espagnols, des Polonais qui ne parlaient pas français reconstruisaient la France.
C'est une clause raciste, une disposition qui vous choque du point de vue de
et des
vivre
Italiens,
ensemble.
Madame Ventura.
Pardon.
Mais c'est vrai, oui. Elle a raison. Mais oui, c'est choquant. Pourquoi? D'abord parce que le pauvre Molière, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire? Il l'associe à une clause, oui, qui est ouvertement xénophobe. Le but, c'est quoi, avant les élections présidentielles, de dire on va interdire sur nos chantiers de faire travailler des gens qui parlent quoi? Arabe? Polonais? C'est ça? Bon, ben moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça pitoyable. Voilà.
C'est fini. Merci beaucoup, Benoît Hamon.
Ben voilà.
J'allais donner la parole à Yves Calvi.
Merci beaucoup.